Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette édition de notre programme. La santé du pape continue de s'améliorer. C'est ce qu'a assuré mardi la salle de presse du Saint-Siège. Toutefois, aucune des célébrations des jeudis et vendredis saints ne seront présidées par le Saint-Père. Le Saint-Siège a fait évoluer la formation de son appareil diplomatique. Les futurs représentants pontificaux envoyés de par le monde suivront désormais un cursus à l'Institut académique en sciences diplomatiques, un chirographe intitulé « Le ministère pétrinien » signé du souverain pontife le 25 mars dernier a été rendu public mardi. Plus de précisions dans quelques instants. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, nous reviendrons sur la célébration du dimanche des Rameaux. Nous serons à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, dans l'archidiocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et au Bénin, où nous vous ferons écho de la visite de Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi, nonce apostolique au Bénin et au Togo, à l'École internationale de prière et d'évangélisation jeunesse bonheur de l'archidiocèse de Cotonou. Après l'actualité sociopolitique africaine, le professeur Jean-William Demi Killing, topographe congolais, reviendra sur les pluies diluviennes qui se sont abattues début avril sur la capitale congolaise Kinshasa, occasionnant des inondations qui ont causé plusieurs morts et blessés ainsi que d'énormes dégâts matériels. Et nous terminerons cette édition par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La salle de presse du Saint-Siège a indiqué mardi 15 avril que l'état de santé du pape continuait de s'améliorer. François a de moins en moins recours à l'oxygénothérapie. La salle de presse informe également que le pape ne présidera pas les célébrations du jeudi et vendredi saint. Toutefois, les méditations du chemin de croix ont été préparées par le Saint-Père. Elles seront publiées vendredi 18 avril. Il n'y a encore pas d'indication sur la présence ou non de l'évêque de Rome aux célébrations du Triduum pascal. Et le Saint-Père qui a nommé mardi abbé Joseph Mopepe Ngongo, évêque du diocèse de Molégbé en République démocratique du Congo. Né le 15 juillet 1966 à Djemena dans le diocèse de Molégbé, Mgr Ngongo a été ordonné prêtre le 19 mars 1995. Il est titulaire d'un doctorat en théologie obtenu à l'Université catholique en République démocratique du Congo. La plus ancienne école diplomatique au monde s'adapte aux enjeux contemporains. Le Saint-Siège réforme la formation de ses futurs diplomates par un chirographe du pape François paru mardi. Les prochains nonces apostoliques suivront désormais un cursus à l'Institut académique en sciences diplomatiques, une refonte de l'Académie pontificale ecclésiastique qui les accueillait depuis 1701. Delphine Allaire.
C'est une mise à jour pour adhérer aux paramètres internationaux de l'enseignement supérieur. Les jeunes prêtres venus des diocèses du monde entier y étudier à Rome se verront délivrer des grades de master et de doctorat désormais reconnus, selon entre autres le processus de Bologne. Partie intégrante de la secrétaire d'État, l'école se dote d'une personnalité juridique publique et reconfigure ses programmes. L'établissement intègre ainsi à sa formation des compétences juridiques, historiques, politiques, économiques et linguistiques, avec une base scientifique solide. Cet itinéraire requiert, selon le Saint-Siège, des capacités d'interprétation, une solide aptitude au discernement et une disponibilité à affronter les défis d'une église de plus en plus synodale. Les qualités personnelles indispensables au bon diplomate pontifical ne manquent pas. Proximité, écoute et dialogue à combiner avec l'humilité et la douceur, explique François. Bref, l'alliance de cette méthode de travail et de ce style de vie doit aboutir à une action diplomatique inspirée par l'évangile, capable de promouvoir des chemins de paix, de liberté religieuse et de coopération entre les nations. Surtout, assure François, une époque marquée par des changements technologiques et scientifiques aussi rapides, constants et considérables.
Revenons à la célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur qui a marqué l'entrée de l'Église dans la Semaine Sainte. À la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, dans l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le curé, le père Eugène Laurence Aoundji, a, dans son homélie, exhorté les fidèles à cultiver l'humilité, l'amour et la réconciliation. Marcel Ariston Blay.
Ô Hommes et femmes et enfants ont défilé en nombre dans les rues, rameau en main, à l'image de la foule accueillant le Christ à Jérusalem, dans une atmosphère empreinte de recueillement rythmée par des chants liturgiques. Les fidèles ont exalté celui qui, dans une semaine, offrira sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Au cours des différentes célébrations eucharistiques, ils ont élevé leurs prières pour la paix en Côte d'Ivoire.
Cette fête vraiment nous rappelle à nous chrétiens que Jésus se donnera à la croix pour nous, et que ce grand amour-là qu'il a pour nous, que nous aussi en tant qu'être humain, nous puissions le partager avec nos amis, nos enfants, notre famille, afin que Christ, qui sera ressuscité le dimanche de Pâques, nous apporte la paix, l'amour dans la famille, dans le pays et sur toute la terre entière.
Lors de son homélie, le père Eugène Lawrence Awondji a invité les fidèles à vivre intensement cette ultime semaine du carême en se rapprochant davantage de Dieu. En cette période où le climat politique national se fait de plus en plus incertain, le curé a lancé un appel pressant à l'unité dans la prière. Le père Awondji a également exhorté les fidèles à prendre pleinement conscience de la richesse que représente leur pays, la Côte d'Ivoire, les enjoignant à accueillir le message profond de la fête des rameaux, l'humilité et l'amour.
Alors je demande que nous saisissons ce message fort des rameaux pour que, à l'exemple de Jésus-Christ, maître de l'univers, qui s'immole sur la croix par amour pour nous et pour son Père, que nous puissions suivre son exemple d'humilité, de réconciliation, de miséricorde.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Monseigneur Ruben Dalliorus Mainardi, nouveau nonce apostolique au Bénin et au Togo, a effectué samedi 12 avril une visite apostolique à l'école internationale de prière et d'évangélisation Jeunesse Bonheur de l'archidiocèse de Cotonou. Occasion pour le représentant du Saint-Père dans ces deux pays de l'Afrique de l'Ouest de lancer un message d'encouragement à la trentaine de jeunes de 6 nationalités africaines constituant la 11e promotion de cette école. Les détails avec notre correspondant au Bénin.
C'est dans une ambiance à la fois de joie et de solennité que les jeunes de l'école internationale de prière et d'évangélisation Jeunesse Bonheur de l'archidiocèse de Cotonou ont accueilli en la veille du dimanche des rameaux le représentant du pape près le Bénin et le Togo. Le père Cyril Mihigbénan, directeur fondateur de l'institution, présente le sens et la portée de cette visite.
Par votre présence ici aujourd'hui, vous venez témoigner à la jeunesse béninoise, africaine en général, et aux jeunes de l'école Jeunesse Bonheur en particulier, cette sollicitude du pasteur de l'Église universelle, dont vous êtes du reste le représentant permanent dans notre pays. Ainsi, à travers vous, c'est le souverain pontife lui-même que nous accueillons avec joie et avec toute notre affection filiale, en ce moment où toute l'Église est en prière pour sa santé.
Après son mot d'ouverture, place à un échange à bâton rompu entre le nonce apostolique et les jeunes. Il leur a rappelé à cette occasion l'actualité du cheminement vers la sainteté dans le monde contemporain.
Il n'y a pas des époques idéales pour être saint. Et les époques les plus difficiles sont les époques où il y a eu plus de saints. Tu vois, il ne faut pas avoir peur de notre époque. Il ne faut pas avoir peur des défis et des complications. Une stimulation pour être encore plus.
Cotonou, juste Rlanon pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. 2 ans de guerre civile au Soudan, 2 ans d'une crise humanitaire sans précédent. 13 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées sur une population de 50 millions. La famine se répand. Selon l'ONU, 30 millions de Soudanais ont désespérément besoin d'aide. La communauté internationale réunie à Londres mardi a appelé à la fin des hostilités et s'est engagée à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour ce pays. Au-delà de la diplomatie, c'est avant tout de développement dont a besoin le pays, comme l'explique Marc Lavaigne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan.
Il n'y a pas simplement une compétition entre les forces de soutien rapide et l'armée, il y a aussi des combats au sein de la population du Darfour entre les nomades et les paysans. Les forces de soutien rapide étant essentiellement des éleveurs nomades, paupérisés par la sécheresse, le changement climatique, etc., et aussi par la croissance de la population, et les agriculteurs qui possèdent des terres, donc, et maintenant, je pense que les nomades essayent de les chasser pour se sédentariser, ou pour occuper en tout cas ces terres fertiles qui sont plus au sud, mieux arrosés. Mais un processus de paix, ça ne consiste pas simplement à mettre les gens autour d'une table, il faut aussi leur donner des raisons de s'arrêter de se battre, c'est-à-dire leur trouver d'autres moyens d'existence que l'affrontement et le pillage de ceux qui ont un peu plus qu'eux. La question n'est pas simplement d'arrêter les forces de soutien rapide, il s'agit de leur trouver d'autres moyens de vivre finalement, la sédentarisation ou bien des activités économiques qui leur permettent de se réadapter. Et ça, aujourd'hui, le seul recours des jeunes du Darfour, c'est de traverser la frontière pour aller en Libye, pour essayer de venir en Europe.
Mac Lavaigne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan, dans des propos recueillis par Olivier Bonnel. Notons également qu'après 2 ans de guerre au Soudan, le nombre de graves violations des droits des enfants a augmenté de 1000%, a dénoncé l'UNICEF à lundi, appelant à ne pas abandonner des millions d'enfants brisés. 12 détenus ont été blessés lundi à la maison d'arrêt d'Abidjan lors d'une émeute déclenchée pour contester une mesure prise dans le cadre de la lutte contre la drogue dans les prisons. C'est ce qu'a indiqué Célestin Camin, directeur de l'administration pénitentiaire, dans un communiqué. Au moins 52 personnes ont été tuées dans 2 attaques dimanche dans le centre du Nigeria, secouées par des affrontements meurtriers intercommunautaires récurrents, a indiqué lundi un responsable de la Croix-Rouge. Revenons aux pluies diluviennes qui se sont abattues début avril sur Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'eau de la rivière Ngili est sortie de son lit, occasionnant des inondations qui ont causé plusieurs morts et blessés, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, le professeur Jean-Willy Ndemi-Killing, docteur en sciences de l'environnement, attribue ce phénomène à l'activité humaine, tout en recommandant l'expropriation des zones mal loties et le dragage de la rivière.
Je pense bien que la situation qui prévaut maintenant dans la ville de Kinshasa en rapport avec les inondations, nous pouvons dire qu'on n'a pas respecté les normes urbanistiques. Quand je parle des normes urbanistiques, ça signifie quoi? Parce que dans l'urbanisme, il y a le lotissement. Quand on lotit, on doit respecter, il y a des normes, il y a les cahiers des charges qu'on donne. Et puis, les normes, c'est quoi? On devrait normalement respecter les zones de recul de la rivière Ngili à partir de Lemba Imbu. Donc, les lits majeurs de la rivière Ngili devraient être libres, qu'on ne puisse pas construire là-bas. Parce que vous savez que la rivière Ngili ou toute autre rivière a à peu près 2 ou 3 lits. Ça dépend des experts. Il y a les lits mineurs, il y a les lits majeurs moyens et il y a les lits majeurs. Bon, d'autres encore disent que il y a les lits mineurs et les lits majeurs. Mais maintenant, le problème de la rivière Ngili, c'est quoi? De part et d'autre, il y a des constructions, il y a des maisons qu'on a érigé dans l'anarchie, donc en termes d'occupation libre de l'espace. On n'a pas tenu compte des normes urbanistiques. On n'a pas respecté ces normes-là urbanistiques. Deuxième problème, vous voyez, à partir de Lemba Imbu jusqu'à l'embouchure là-bas, il y a des maisons. Et tous ces ménages-là produisent des déchets. Et ces déchets-là sont jetés où? Les déchets-là sont jetés dans la rivière Ngili. On a d'abord occupé de part et d'autre des zones de recul de la rivière. Maintenant, on jette encore des déchets solides dans la rivière Ngili. Alors, même au niveau de la profondeur de la rivière Ngili, à partir de Lemba Imbu jusqu'à l'embouchure avec le fleuve Congo, ça a changé. Ça a changé. Maintenant, la forêt qui était le long de la rivière, on a tout coupé. Maintenant, c'est un problème sérieux.
À qui peut-on attribuer la responsabilité des dégâts dus à ce phénomène?
C'est l'État qui doit mettre de l'ordre. Si on dit à tel endroit, c'est une zone non édificante, non édificante, ça signifie que c'est une zone qu'on ne doit pas occuper, qu'on ne doit pas construire. C'est l'État, les services de l'État sont censés de mettre de l'ordre et de gêner quiconque va tenter d'occuper ces zones marginales. Basses, ce sont des zones marginales basses. Mais si on doit laisser les gens occuper de manière libre des zones marginales, c'est ça le problème. Donc l'État aussi a sa part des responsabilités.
Professeur Jean-Willy Ndemi Killing, topographe congolais, interrogé par Marie-Josée Mwando Bobwalo. Terminons cette édition par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette rubrique par l'Ukraine. Un dimanche des rameaux entaché de sang dans ce pays. Alors que s'étaient rassemblés pour des célébrations, au moins 34 personnes ont trouvé la mort et plus de 117 sont restées blessées, dont de nombreux enfants. Le drame a eu lieu à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, à 50 km de la frontière avec la Russie. Deux missiles balistiques ont frappé les cœurs de la ville vers 10h du matin, alors que les fidèles dans les rues bondées pour les dimanches des rameaux s'est rassemblés pour la messe qui marque l'entrée des chrétiens dans la Semaine Sainte. Les images montrent des scènes dévastatrices avec des corps jonchés dans les rues et des pompiers essayant d'éteindre les flammes des véhicules au milieu des décombres des bâtiments détruits. Devant une telle tragédie, les nonces apostoliques en Ukraine, Monseigneur Visvaldas Kulbokas, estime qu'il ne reste plus qu'à se tourner vers les seigneurs car il semble qu'aucune autre force ne soit capable de protéger la paix et la vie. En Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, le pays tente de se redessiner. Les autorités de transition menées par les partis islamistes Hayat Tahrir al-Sham et son leader doivent reconstruire un pays miné par des années de guerre civile, mis au ban de la communauté internationale et ruiné économiquement en raison, entre autres, des sanctions imposées par la communauté internationale. Les autorités de transition veulent s'inspirer de la loi islamique pour la nouvelle constitution. Quelles sont les craintes et les attentes? Monseigneur Jacques Mourad, l'archevêque syriaque catholique de Homs, s'est exprimé à ce sujet.
Que la Syrie, c'est un pays islamique, ce n'est pas un problème, parce que ça, c'est la vérité aussi. Mais la réalité est complètement différente. On ne peut pas accepter que le pays soit dirigé par la loi islamique, parce que il y a beaucoup de différences entre le droit de l'homme et la loi islamique. Donc ça ne peut pas être la source pour gérer la justice dans notre pays. En général, la communauté chrétienne en Syrie, les restes de la communauté chrétienne, ils ont tous peur, préoccupés. Ils n'ont aucune confiance à ce gouvernement et tout le monde pose la question par rapport à l'immigration. Concrètement, on se sent étranger dans notre pays. Tout le monde, ils sont enfermés dans leur maison. On est très très loin de la démocratie et de la liberté. Moi je pense que ce que nous vivons aujourd'hui en Syrie, c'est à cause du manque de responsabilité de la communauté internationale. Si la communauté internationale, elle est sérieuse dans sa recherche pour la paix, elle doit d'abord réaliser cette paix en Syrie. Parce que la Syrie, c'est le pays qui fait le lien entre tous les pays de l'Asie et l'Europe.
Monseigneur Jacques Mourad, l'archevêque syriaque catholique de Homs en Syrie, des propos recueillis par Olivier Bonnel. Au Kurdistan irakien, une procession œcuménique à la veille des rameaux dans un témoignage commun d'unité. Des centaines de chrétiens d'Ankawa, une banlieue d'Erbil au Kurdistan irakien, ont participé à une procession œcuménique organisée par les comités catéchétiques de l'archidiocèse chaldéen d'Erbil. Elle portait sur le thème Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une célébration enracinée dans une foi partagée et un témoignage commun qui a rassemblé des responsables et des fidèles de diverses confessions chrétiennes. La procession s'est achevée par une prière au sanctuaire des Mar Elias. En Birmanie, à Phalam, dans les diocèses de Akka, dans l'État de Chine, l'église catholique Christ et Roi a été détruite le 8 avril dernier à la suite des bombardements aériens de l'armée régulière. Cette église avait été récemment construite au prix des grands sacrifices pour répondre aux besoins de la communauté catholique locale qui compte environ un millier de fidèles. Cette nouvelle destruction marque un nouveau chapitre tragique de la guerre civile entre les militaires au pouvoir et les forces de la résistance qui continue d'affecter gravement les chrétiens et les lieux de culte adultes. Selon des sources locales de l'agence Fides, les toits de l'intérieur de l'église ont été dévastés, mais les murs de l'édifice ont résisté.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.